Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients vont bien.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, bon, merci. Vous venez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Nous voilà arrivés au mois de juin et avec lui sonne l'heure des premières récoltes d'été dans les potagers. Les carottes et les concombres semés à la fin de l'hiver dernier arrivent, les épinards du printemps voient enfin leurs feuilles s'épanouir largement. Beaucoup de personnes font remarquer avec un brin de frustration que c'est comme si le confinement nous avait volé un bout de l'année, celui qui correspond habituellement à l'arrivée des beaux jours, les premières terrasses, les premières flâneries à la campagne, les premières balades sans manteau. Alors maintenant que la crise sanitaire est à peu près derrière nous, on a voulu pousser les murs, sortir, humer l'air frais. Ça veut dire célébrer le fait d'être dehors et connecté à la nature, qu'on soit en ville ou à la campagne. Alors que la saison de Bouffon touche à sa fin avec cet avant-dernier épisode, on vous parle donc de ce lien très fort que l'humain peut avoir avec la Terre, de la chance d'avoir à sa disposition un bout de terrain, du moment où on décide d'en prendre soin pour y faire pousser des plantes, lorsqu'on bêche, ratisse, creuse, arrose, bouture, taille, défriche. Toutes ces petites actions précises et minutieuses que l'on porte à ce qui nous fait l'honneur de pousser, bourgeonner, fleurir. À travers le concept de potager, on va évoquer l'importance d'être à l'écoute du vivant, l'humilité devant les lois de la nature, la patience et l'indépendance. Un potager, c'est ce petit bout de jardin sur lequel on fait pousser des plantes destinées à la consommation familiale. Mais c'est aussi, plus largement, le nom que l'on donne à tout lopin de terre sur lequel on cultive pour un usage culinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du potager en zone rurale, mais aussi du potager en zone urbaine. Si avoir un potager peut renvoyer à l'image de la belle propriété de campagne entourée d'un grand jardin dont une parcelle est consacrée à des légumes, le potager n'est pas seulement le privilège des gens qui ont de l'espace. S'occuper de plantes potagères, ça peut être un métier, ou au contraire, l'objet d'un bénévolat. Pour nous parler de l'art de faire pousser des choses qui se mangent, je suis allée en deuxième partie d'épisode à la rencontre de Sophie, qui fait partie de l'association La Sauge. Un acronyme joliment trouvé pour désigner la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. À Bobigny, La Sauge a pris ses quartiers sur une friche qui s'appelle la Prairie du Canal, le long du canal de l'Ourcq. Depuis 2017, ce site qui était autrefois une usine de motos est devenu une ferme urbaine qui n'existerait pas sans les agronomes qui l'animent et les petites mains volontaires des bénévoles qui donnent de leur temps lors de chantiers participatifs.
C'est un des principes pour moi de l'agriculture urbaine, c'est de reconnecter les gens à leur alimentation, de la mettre au plus près de chez eux. Donc c'est vrai que pour des gens qui cuisinent et qui achètent tout déjà fait, là, pouvoir récolter ta menthe fraîche juste pour la mettre dans ta carafe d'eau et faire une eau infusée, c'est un vrai plaisir. Nous, voilà, on a mangé des pâtes à la sauce de la sauge ce midi.
Mais avant ça, j'ai skypé Anaïs Kéroas, productrice de plantes aromatiques et médicinales près de Dole de Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Anaïs, vous en avez peut-être déjà fait la rencontre à travers le documentaire à succès « Anaïs s'en va en guerre », sorti en 2014. Réalisé par Marion Gervais, ce film montre la détermination d'Anaïs qui, à l'âge de 24 ans à l'époque, décide de se lancer dans le commerce de tisanes élaborées à partir de ses propres plantes séchées. Malgré les affres des démarches administratives et le regard peu accueillant des vieux loups de l'agriculture conventionnelle, Anaïs se fraye un chemin dans la région et parvient à faire son trou au prix de sacrifices comme le fait de dormir dans une caravane au fond de son champ et vivre sans chauffage l'hiver. 6 ans après, Anaïs exploite 14 000 mètres carrés de terrain et ses tisanes ont trouvé leur public.
Et ben, par exemple, alors les plantes sauvages, ça va être l'aubépine, le sureau, le frêne, qu'est-ce que je fais en sauvage, l'ortie aussi, il y a quoi, la reine des prés et la prêle, ça c'est les plantes que je fais en sauvage, enfin il y en a certaines qui sont sur mon terrain mais je les cultive pas quoi, elles poussent toutes seules et puis je les récolte, sinon je vais chez des amis agriculteurs bio souvent ils ont plein de sureaux dans les haies par exemple, le frêne aussi en bordure de champ, la reine des prés, je le fais dans un marais là, qui est protégé pas très loin. Et puis après, dans les plantes annuelles, il y a quelques fleurs. Je suis restée, j'en ai arrêté pas mal quand même, parce que c'était un peu compliqué à faire. Mais avant, je faisais du coquelicot, de la mauve et du bleuet, par exemple. Et puis après, dans les annuelles, bah, y a les basiliques. Tous les basiliques, moi j'adore le basilic, donc j'en fais plein des différents. Mais je devrais pas parce que c'est la plante la plus compliquée à faire sécher. Je m'arrache les cheveux des fois avec cette plante, mais bon, elle, c'est tellement bon que je résiste pas. Moi, j'apprends encore aujourd'hui. Hein. C'est un métier où je pense qu'on apprend toute sa vie, que ce soit autant le côté agricole que l'herboristerie. C'est des choses, c'est avec l'expérience qu'on apprend les choses aussi, quoi. Mais ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que avec l'agriculture, je fais tout le temps des erreurs où des fois on sait pas pourquoi on loupe une plante. Tous les ans, j'en loupe deux ou trois, quoi. C'est jamais les mêmes. Je sais pas pourquoi. Des fois, c'est ma faute. Des fois, je sais pas pourquoi. Mais on peut toujours recommencer l'année suivante. Donc, moi, je trouve ça assez cool. On peut toujours se rattraper. J'ai toujours été attirée par les odeurs. Quand j'étais petite, je voulais être née. Et ouais. J'étais très nulle en chimie, donc je me suis dit que c'était pas pour moi. Et puis je suis pas très combative, enfin je sais pas comment dire, mais c'est un métier où il y a pas beaucoup de place, je pense, et j'avais pas envie de me battre. Je suis pas très concours et tout ça, quoi. Donc j'ai même pas essayé. Mais après, plus adolescente, je voulais être fleuriste à un moment donné aussi. Il y a toujours un lien en fait avec les odeurs ou les plantes un peu de près ou de loin. Et en fait, j'ai découvert les huiles essentielles. C'est par hasard, hein, j'avais des maux de tête quand j'étais adolescente et on m'a parlé un jour de la menthe poivrée en huile essentielle. Et bref, j'ai commencé à découvrir ça. Et c'est vrai que quand j'étais petite, moi, mon père, il me disait ça, que dans le jardin, j'essayais toujours d'extraire les odeurs des plantes. J'essayais de prendre des fleurs, je les mettais dans l'huile, dans l'eau, dans l'alcool, je mettais pour essayer de retrouver l'odeur, quoi. Bon, j'arrivais jamais, hein, mais j'essayais. Et donc, quand j'ai découvert les huiles essentielles, j'ai trouvé ça fantastique parce que je me suis dit que eux, ils avaient réussi à extraire les odeurs. Et en plus, elles ont des propriétés qui aident à se soigner, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment magique. Je me suis dit, les odeurs m'avaient toujours plu, mais en plus des odeurs, il y avait des pouvoirs derrière, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et donc après, j'ai voulu faire une formation d'herboriste. Je savais pas trop comment faire parce que vu que je me suis renseignée beaucoup, j'ai fait des recherches. Et puis je voyais bien qu'il y avait pas de diplôme, tout ça. Donc j'ai hésité. Et puis finalement, j'avais pris un peu de recul une année comme ça après le lycée. Et finalement, je me suis dit en revenant, je sais pas ce que je veux faire, mais ça me plaît. La formation, je pouvais la payer un petit peu chaque mois, donc j'arrivais à travailler à côté et faire la formation. Et je me suis dit, au pire, ça me servira en privé, hein, tant pis, parce que je savais pas quel travail j'allais pouvoir faire avec ça, mais j'avais vraiment envie d'apprendre à reconnaître les plantes, à les utiliser, tout ça. Ouais, c'était un peu, je sais pas, je trouvais ça vraiment chouette, ce côté-là. Et puis, du coup, j'ai fait la formation, et en fait, c'est vraiment au moment où j'ai fait le stage chez Gérard où je me suis rendu compte que le côté agricole me plaisait beaucoup. Alors que j'y avais jamais pensé parce que je suis pas issue du monde agricole ni de la campagne. Et même si j'ai grandi dans une petite ville, c'était pas la campagne. Et je pensais que c'était des métiers très difficiles, réservés aux hommes. Moi, je voyais les tracteurs, la mécanique, tout ça. Je me suis dit, oh là là, moi, je peux pas faire ça. Et finalement, quand j'ai vu Gérard, il m'a montré que non, on pouvait faire ça aussi en système jardin, que j'étais capable, tout ça. Et ça m'a beaucoup donné envie, quoi. Et c'est vraiment de fil en aiguille, par les rencontres aussi, beaucoup, hein, je pense. Si j'avais pas rencontré Gérard, je me serais jamais installée. Hein.
Ouais, ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui t'a inspiré et qui t'a montré que c'était possible.
Ah ouais, et puis lui, c'est quelqu'un qui a un peu plus de 60 ans maintenant. Et il s'est installé, il était tout jeune. Et il est passionné par son travail. Et il l'est toujours au bout de 40 ans, quoi.
T'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas combative. Moi, je trouve au contraire que tu l'es énormément. T'es comme une sorcière des temps modernes qui apprend encore en plus au contact tous les jours de ces plantes. Selon toi, quelle attitude il faut avoir quand on doit s'occuper comme ça de choses vivantes? Tu parlais tout à l'heure de d'années où tu loupes forcément une ou deux plantes. Quel état d'esprit il faut avoir pour être capable comme ça d'être autant à l'écoute de ce qui pousse?
Je pense qu'il faut un peu de patience, ce que je pense que j'avais pas du tout. Enfin, je suis pas quelqu'un de patient de base, mais je crois que je l'ai appris un peu avec ça. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce travail aussi, peut-être pour m'apprendre la patience. C'est ma psy une fois qui me disait que j'avais besoin de m'ancrer aussi. Elle m'a dit, c'est pas anodin le choix de votre travail, vous avez besoin de vous rapprocher de la terre pour vous ancrer quelque part, quoi. Mais bref, mais il faut plein de qualités différentes. Il faut être bien organisé, je pense. Il faut être bien organisé parce que du coup, ça change tout le temps. Avec la météo, par exemple, on prévoit de faire un truc et puis en fait, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut toujours avoir une solution de repli.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une fois où tu as eu à improviser devant le comportement d'une plante et où du coup tu t'es retrouvé à apprendre quelque chose?
C'était un peu ça. Hein. Au début, c'était que de l'improvisation. Je pense que au tout début, quand j'ai commencé, c'est vrai que je me suis rendu compte de ça, que je me posais des questions à chaque étape. Mais par exemple, rien qu'au niveau du semis, est-ce que la graine, on en met une? Est-ce qu'on en met 10? Est-ce qu'on en met 20? Est-ce qu'on la recouvre de terreau? Est-ce qu'on la recouvre pas? Est-ce qu'on l'enfonce beaucoup? Est-ce qu'on l'enfonce pas? Enfin, pour chaque truc, on peut se poser un million de questions, quoi. Après, quand on plante, on les plante à quelle distance, à quelle profondeur, est-ce qu'on les plante un par un ou trois par trois, ou ça, la coupe, c'est à la récolte. Bon, ça, je savais un peu parce que j'avais fait avec Gérard beaucoup. Mais voilà, par exemple, le basilic, la première année, j'arrivais pas à le faire sécher parce que je m'obstinais. Alors, je le coupais ensuite en morceaux et je m'obstinais à le faire sécher dans mon petit séchoir qui est hermétique un peu avec un déshumidificateur, parce que j'étais persuadée que si je le mettais dans mon séchoir ventilé, il allait pas sécher, quoi. Alors qu'en fait, c'était l'inverse. Je me suis obstinée toute l'année, j'ai raté tous mes séchages. Et puis à la fin de l'année, j'ai dit à Gérard, mais je comprends pas, il sèche pas mon basilic. Et puis il m'a dit, mais non, mais faut le faire sécher dans la grange. Et voilà, donc là par exemple, j'ai appris ça après avoir raté tous mes séchages de l'année, j'aurais dû lui demander plus tôt. Je suis un peu obstinée, c'est vrai que j'aime pas trop embêter les gens avec mes questions, alors j'essaye d'abord beaucoup, et puis au bout d'un moment, si ça marche vraiment pas, je finis par demander conseil à quelqu'un. Et j'aurais dû, des fois, j'aurais devrais demander un peu plus tôt, ouais. Mais oui, on improvise beaucoup, hein. Enfin, ouais, même sans doute encore aujourd'hui, il y a plein de trucs, bon, un peu moins avec l'expérience, on se pose beaucoup moins de questions, mais. Mais oui, il y a toujours un peu d'improvisation. Quand on travaille avec le vivant, je pense que de toute façon, c'est obligatoire.
En fait, tout ça pousse à l'humilité, du coup, parce que ça montre de très près qu'on ne peut pas tout décider dans certaines situations. Il y a plein de facteurs à prendre en compte.
C'est ça, ouais. Ouais. Ah ouais, ça, là-dessus, faut savoir lâcher. Il y a des trucs, ouais, de toute façon, on ne maîtrise pas, donc on fait avec, ouais.
Alors oui, je me disais, donc, par rapport à ce qu'on voit dans le documentaire où tu es au tout début de ton business, de tes cultures, et que tu fais face à parfois l'incompréhension de gens, le sexisme aussi de certains agriculteurs, que tu fais aussi des sacrifices, est-ce qu'aujourd'hui, tu es là où tu veux être?
Oui, carrément, ouais. J'ai surtout senti à la chambre d'agriculture quand j'ai voulu m'installer, j'ai suivi un peu un parcours à l'installation et c'est vrai que c'est le gars qui s'occupait de ça, il m'a dit j'étais là, en plus on était un groupe avec que des, on est trois nanas, il y en a une qui est devenue brasseuse, l'autre qui était maraîchère, moi qui faisais les plantes, et on était toutes les trois en bio, et les autres c'était que des conventionnels, que des gars, que des laitiers ou porchers, fils d'agriculteurs, quoi. Et donc il a commencé par moi. Il a fallu que j'explique mon projet, tout ça. Et le gars, il m'a dit, t'es une fille, t'es jeune, t'es de la ville. Et en plus, t'es jolie, t'as rien à faire dans un champ. Et il m'a attaqué comme ça, direct. Alors moi, ça m'a beaucoup énervée. Et du coup, on s'est rentré dedans pendant tout le truc. Mais il m'a dit, tu sais, Naïs, je te dis ça, c'est parce que c'est ce que tout le monde va penser de toi, quoi. Et il avait raison. C'est ce que les gens, ils n'osent pas forcément le dire, mais je vois bien dans le regard des gens que... C'est un peu ça, et j'imagine que quand je suis arrivée ici, ça a dû beaucoup parler au début. Mais moi, je ne connais pas les commères du coin, donc je m'en fiche. Et je n'ai pas entendu ce qu'ils ont eu à dire, mais on voit bien au début, quand on arrive, mais même de serrer la main, c'est con, hein, mais des agriculteurs, ils ont beaucoup de poigne en général. Et moi, je voyais bien que même si d'autres agriculteurs passaient chez mes amis maraîchers, qui me voyaient là, ils disaient « c'est qui celle-là là ?» Et en fait, je leur serrais la main et je voyais que le regard changeait tout de suite. Ça, mine de rien, tout de suite, ils disaient finalement, elle a de la poigne aussi, donc c'est qu'elle sait se servir de ses mains, quoi. Et mine de rien, ça change complètement la vision qu'ils ont de la personne, je pense. Et puis, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'ils pensent, mais ils doivent se dire, elle est toujours là depuis des années, donc c'est que ça doit marcher son truc. Mais je pense qu'ils donnaient pas cher de mon projet, j'imagine, la plupart des gens, mais bon, c'est comme ça.
Après l'enregistrement, on a continué à discuter avec Anaïs de son amour à distance. Elle m'a raconté qu'elle allait tout faire pour que son copain qui vit au Sénégal puisse la rejoindre, mais que si ça ne marche pas, elle n'exclut pas d'installer un bout de sa vie là-bas. Après tout, les tisanes d'Anaïs peuvent bien devenir les tisanes d'Anaïs au Sénégal. Et puis, avec un climat tropical, c'est tout à coup un autre champ des possibles qui se dessine en matière de culture. Avec des étoiles plein la voix, Anaïs a parlé de goyave, de noix de cajou, de mangue ou encore de fleurs d'oranger, sa senteur préférée. Discuter avec Anaïs donne vraiment envie d'avoir un terrain sur lequel semer et voir grandir des plantes. Mais la ruralité n'a pas le monopole du cultivable. De plus en plus dans nos villes, on voit émerger des fermes urbaines sous l'impulsion d'associations passionnées et déterminées à utiliser des mètres carrés vacants pour y mettre un peu de vert. C'est ce que fait la SAUGE avec brio depuis plusieurs années, en parvenant à fédérer autour de l'asso et en s'inscrivant dans une dynamique de pédagogie, notamment auprès des enfants. Quand je me suis rendue à la Prairie du Canal cet après-midi-là, Sophie de la SAUGE m'a montré les 2000 mètres carrés exploités, sur lesquels on trouve notamment plusieurs serres, un poulailler avec un rooftop pour les poules, une friche, et j'ai même fait la rencontre de Pompon, une poule soie que tout le monde adore là-bas.
Alors la SAUGE, c'est l'acronyme pour la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée, donc qui a été cofondée en 2015 par Sven Deral et Antoine Devins. Donc Antoine est un ingénieur diplômé d'une école d'économie et Sven diplômé d'une école de commerce, l'EM Lyon, et se sont en fait trouvés sur l'idée que tous les deux avaient envie de jardiner, de trouver un endroit pour faire du jardinage en ville, donc ramener la nature. Et ils ont commencé par jardiner donc ensemble avant de remporter un appel à projet donc sur la Prairie du Canal qu'ils ont commencé à investir en 2017. Donc au départ c'était vraiment une friche qui était complètement nue avec une grande dalle de béton. Donc c'était en fait une ancienne usine de moto. Et ils ont investi cette friche avec des bénévoles. Ils ont commencé à faire des chantiers participatifs, notamment à l'occasion des 48 heures. Et après, en fait, la Prairie s'est étoffée au fil des ans pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, une ferme urbaine verdoyante à Bobigny.
Alors, qu'est-ce que vous avez planté exactement sur cet espace ?
Alors, on a plusieurs espaces de culture. L'idée, c'était un peu de tester tout, finalement. Donc, on a beaucoup de plants potagers, donc beaucoup de différentes sortes de tomates. Attaqué par un nid de guêpes.
Je suis à côté, on est dans la serre là et je suis à côté d'un nid de guêpes. Je vais juste peut-être un petit
Elles
peu me décaler.
Inoffensives. Donc du coup, je te disais, on a plein de plants potagers. Donc on va avoir beaucoup de tomates, de betteraves, de légumes racines. Donc ce qui va être carottes, plein de types différents de choux. On a des grosses courges, des très très grosses courges hein, qui faisaient près de 5 kilos. Ils ont d'ailleurs fait une fête pour les courges qui avaient été récoltées, parce qu'elles étaient vraiment énormes. Il y a aussi plein de petits arbres fruitiers, des mûres, des framboises, de la groseille. On fait pousser des salades, on fait pousser du haricot, du maïs, du blé, des aubergines, des concombres. Voilà, à peu près. Et pas mal d'aromatiques, donc tout ce qui va être sauge, ciboulette, menthe, différents types de menthe même. Basilic, on a de la mélisse. Et après, on a peu d'ornements. Enfin, si on a des ornementales, des fleurs qui poussent de manière un peu anarchique, mais c'est ça qui fait la beauté de la prairie. Et après, on vend dans notre pépinière des petites plantes grasses, des sédums.
Alors, si j'ai bien compris, non seulement il y a plein de plantes et plein de plantes différentes, mais cet espace, c'est aussi l'occasion pour vous d'expérimenter des techniques de plantation. Est-ce que tu peux m'en décrire certaines?
Alors, on a sur la friche, on a donc de l'hydroponie, donc qui est notamment dans la serre dans laquelle on se trouve, qui est donc de la culture hors sol. On a également un module d'aquaponie, donc ça c'est un mode de culture vertueux, c'est une symbiose entre des végétaux et des poissons qui permet de produire en grande quantité. Enfin,
c'est-à-dire que là, en gros, on a deux bacs. Oui. Un bac avec de l'eau et des poissons, oui. Et le bac juste à côté, c'est le bac dans lequel se trouvent les plantes.
Exactement, en fait, donc les poissons vont, les déjections des poissons vont venir nourrir les plantes qui vont pousser et à leur tour venir apporter des nutriments dans l'eau qui vont profiter aux poissons. Donc c'est vraiment le principe de la symbiose et qui permet d'avoir des rendements assez intéressants. On a également, on fait de la permaculture puisqu'on a une technique qui est la MILPA, qui est une association de trois cultures, donc le haricot, le maïs et la courge.
Mais le point commun de tout ça, c'est que tout est à peu près hors sol puisque on ne pourrait pas planter directement dans la terre sur laquelle on se trouve en raison aussi du passif du terrain, donc puisque le terrain était industriel avant.
Oui, c'est ça. En fait, donc du coup, c'est, comme je disais, c'était une ancienne usine de moto. Donc, on est sur une dalle. Et en fait, y a eu des études de sol qui ont été faites ici. Et c'est avéré que le sol était pollué. Donc, c'est absolument impossible pour nous de faire de la culture plein sol. C'est pour ça que tout est dans des bacs ou alors dans des buttes qu'on a recréées avec de la terre et des bottes de paille.
Ce qui est vraiment l'état d'esprit de l'agriculture urbaine, puisque le principe, c'est qu'on essaye de faire... De semer hors sol et de du coup maximiser des espaces qui se trouvent comme ça à la lisière des villes ou dans les villes.
C'est ça, oui. Alors effectivement, en agriculture urbaine, il y a vraiment différents types possibles. Il y en a une multitude incroyable. Nous, on est sur une friche. Il y a beaucoup de gens qui sont sur des toits. Il y a des gens qui sont dans des parkings. Hein, si on pense à Cycloponics notamment, qui ont investi un parking désaffecté dans le 18e. Il y a aussi la culture dans des
conteneurs ?
Des conteneurs, voilà. Il y a de la culture en conteneurs. C'est Agricool qui fait ça, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment différents types d'agriculture urbaine. Et nous, c'est celui-là qu'on a choisi.
Et alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre en arrivant ici ? Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as été trop contente de voir de près ?
Je pense que la chose qui était le plus bénéfique à la sauge, c'était de trouver le moyen de jardiner à Paris. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est un vrai plaisir et vraiment qui est pourtant accessible puisqu'il y a pas mal de jardins partagés dans la ville, mais pas forcément moi du côté en tout cas où je vivais puisque je vis dans le sixième, voilà, un superbe studio étudiant, voilà. Et en fait dans le sixième et le cinquième arrondissement, il y a pas de jardin partagé. C'est quasiment les seuls arrondissements de la ville où il y a pas d'espace de ce type-là. Alors que pourtant il y a des arrondissements qui en sont très bien pourvus, notamment le 19e et le 20e. Même le 18e aussi. Et du coup, c'était vraiment ça l'opportunité de venir mettre les mains dans la terre, d'en apprendre plus sur des cultures que je ne connaissais pas du tout, notamment la milpa, par exemple. J'en avais jamais entendu parler, et ça, c'était un plaisir de découvrir ce genre de choses.
C'est quoi cette culture, alors ? Est-ce que tu peux nous raconter ?
Alors, la milpa, c'est une association de culture, en fait. Ça s'appelle aussi l'association des trois sœurs. C'est une technique qui vient d'Amérique latine et qui, en fait, consiste à mêler donc trois cultures, le maïs, le haricot et la courge. En fait, la courge va venir recouvrir le sol et garder l'humidité. Le maïs va pousser droit et servir de tuteur au haricot qui, lui, va s'enrouler autour du maïs.
C'est un écosystème qui va hyper bien ensemble et oui. Dialoguer ensemble, se renforcer l'un l'autre.
Et en fait, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un maximum de rendement. Enfin, l'idée, c'est la situation, mais je veux dire, le résultat, en tout cas, c'est un maximum de rendement sur un minimum de place. Donc, c'est hyper intéressant. C'est un des principes qui est appliqué en permaculture, par exemple. Après, il y a plein d'autres associations qui sont bénéfiques. En général, on fait des associations de culture pour qu'une des deux variétés éloigne les parasites de l'autre. Ou alors pour procurer de l'ombre à l'un. Par exemple, si on fait pousser des radis et des salades l'une à côté de l'autre, la salade va donner de l'ombre au radis, qui est une variété qui aime bien la mi-ombre, par exemple.
Voilà. D'accord. Donc du coup, jardiner en ville, quelque part, c'est quand même... C'est beaucoup plus contraignant que dans un environnement rural.
Oui,
est-ce que tu dirais ça ?
À part, pas vraiment en fait. À part le fait qu'on fasse que du hors-sol et qu'on ait été obligé de créer les structures pour faire de la culture hors-sol, donc que ce soit des bacs ou que ce soit recréer des buttes de paille sur la dalle. Après, c'est quand même assez simple quand on y consacre le temps qu'il faut et voilà, et qu'on est attentif à ce qui se passe dans son jardin. C'est pas contraignant, non. C'est une manière différente de faire.
C'est intéressant parce que du coup, cette logique devrait nous encourager. C'est que à partir du moment où on a l'espace, tant qu'on a les bacs pour pouvoir planter tout ça hors sol, a priori, il n'y a pas d'autres difficultés, il n'y a pas de difficultés supplémentaires par rapport à un environnement rural, alors.
Après, la finalité n'est pas la même. Alors, je veux dire, nous, on n'est pas maraîchers, on ne produit pas suffisamment pour pouvoir vendre. Et ce n'est pas non plus l'objectif, puisque nous, l'association, elle a avant tout un but pédagogique. Mais effectivement, c'est plus une question d'espace, en fait, dans la ville. Avant que l'agriculture urbaine ait le vent en poupe, ça ne se faisait pas particulièrement de cultiver sur les toits ou de proposer à des associations via des appels à projets de récupérer des friches pour expérimenter. Donc c'est vraiment une question d'espace et en fait c'est une notion qui qui est pas si évidente que ça quand on vit dans une ville aussi concentrée que Paris, par exemple, et même l'Île-de-France qui vit exactement la même chose. Donc c'est...
Et t'as le sentiment que c'est en train de changer, qu'on va vers plus d'agriculture urbaine, plus ça va, plus on avance dans le temps?
C'est sûr que oui, puisque typiquement sur le parc des expositions de la Porte de Versailles, il y a une ferme qui va ouvrir là, qui va être, je crois, la ferme la plus grande d'Europe.
Oui.
De bêtises, c'est comme ça
qu'elle est présentée.
Ouais. Exactement. C'est indéniable. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas dire le contraire. Et puis de toute façon, que les gens sont de plus en plus au courant de ce qu'est l'agriculture urbaine. Je veux dire, quand la sauge a commencé il y a 5 ans, c'était pas du tout le même état d'esprit déjà à l'époque. Donc les choses ont bougé très vite et ça va s'intensifier puisque maintenant les gens cherchent, enfin je veux dire les autorités publiques cherchent comment on va nourrir la population. Donc ils sont plus enclins à laisser effectivement des espaces aux assos et même aux entreprises parce que typiquement la ferme sur le parc des expositions elle va être occupée par une entreprise.
Tu disais donc ici vous n'êtes pas maraîcher maraîchère. Qu'est-ce que vous êtes d'autre alors ?
Alors la sauge, elle a plusieurs missions. Elle a une mission qui est pédagogique, via déjà mettre à disposition des gens une ferme urbaine dans laquelle ils peuvent venir apprendre et expérimenter. On fait beaucoup d'animations dans des jardins partagés, notamment à Bobigny. Donc ça, on a un accord avec la Semeco qui est un planificateur urbain. Du coup, pour eux, on fait beaucoup d'animations dans les jardins partagés. Alors, ça permet de créer du lien social avec les habitants, donc entre nous et les habitants, et entre les habitants eux-mêmes, puisque vraiment, le jardin, c'est une activité autour de laquelle les gens peuvent se rencontrer. Et enfin, on a développé un programme éducatif qui s'appelle De la graine à l'assiette, et qu'on fait avec 9 classes des villes de Bobigny et de Pantin. Et là, l'idée, c'est de montrer aux enfants, en fait, comment, c'est un peu dans le titre, hein, comment ce qui est dans leur assiette est arrivé jusque-là. Donc, on fait avec eux, on leur explique déjà comment les végétaux poussent, ce qu'on peut faire pousser, ce que c'est la saisonnalité. Ensuite, on fait des activités pratiques avec eux, donc pour leur montrer effectivement comment on fait des semis. On leur montre comment ça pousse, le rythme. Et après, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent venir récolter et goûter. Et se rendre compte que quand on a produit quelque chose, ça a vraiment un bon goût, quoi. C'est en plus de la satisfaction personnelle, ça a bon goût, quoi.
Et ça, c'est vrai que c'est un défi, je pense, partout, mais plus particulièrement encore dans une ville aussi concentrée que Paris, montrer aux enfants ce cercle vertueux lié à la nature et leur montrer autrement que dans un livre ou à travers une vidéo, quoi, qui mettent vraiment la main à la terre eux-mêmes.
Oui, c'est clair, puisque Paris est une ville qui a pas mal d'espaces verts, mais les jardins partagés sont souvent des jardins qui sont un peu cachés entre deux immeubles ou dans un jardin public, mais fermé. Il y a pas mal de monde dans ces jardins partagés qui voudraient que leur lieu soit des endroits plus ouverts, et notamment plus ouverts à la jeunesse. Il y a un collectif dans le 20e qui s'est créé qui s'appelle Jardivin. Et vraiment, la personne qui a été à l'initiative de ce collectif me disait que pour lui, ce qui était le plus important, c'est que les enfants sachent qu'il y avait un jardin à côté de chez eux, dans lequel ils pouvaient se rendre, se poser, profiter de la nature, découvrir des choses. Et je pense que c'est essentiel à Paris. Au départ, il fallait aller chercher les gens, il fallait aller chercher les familles pour leur dire « Venez passer un moment, vos enfants vont adorer ». Et maintenant, on a des familles tous les dimanches qui viennent et c'est un vrai plaisir à voir, quoi.
Alors tout à l'heure, on parlait d'écosystème pour désigner ce qui se passe dans ces bacs. C'est vrai que là, tout de suite, on parle au milieu d'une serre. On est entouré de tous ces plants. Il y a une autre serre encore. Il y a cet espace que tu m'as fait visiter qui s'appelle la prairie, je crois, c'est ça ?
Oui,
la prairie dans la prairie.
Ouais.
Qui est cet espace dans lequel vous avez fait exprès de ne toucher à rien. Voilà, cet espace en friche. Mais donc, clairement, le mot écosystème, on a envie de le prononcer. À tous les 2 mètres ici. Mais au-delà de ça, la sauge elle-même, cet asso, se trouve elle-même dans un écosystème qui, en ce moment, j'ai l'impression, est en train d'être vertueux, puisqu'on a ces espaces mis à disposition d'associations. On a aussi de plus en plus de jeunes entreprises, d'acteurs qui vont dans ce sens-là. Là, derrière nous, par exemple, tu m'as montré la houblonnière.
Oui.
Qui est un peu installé donc en partenariat aussi avec De Maury, oui. Les brasseries De Maury. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Du coup, c'est du houblon qu'on a planté en partenariat avec les brasseries de Mori. Et en fait, on va dire entre guillemets, c'est pareil, c'est une relation, c'est une espèce de symbiose, une relation vertueuse entre eux et nous. On cultive le houblon pour eux et avec les fleurs de houblon, ils vont faire une cuvée un peu spéciale, la sauge. Mais voilà, c'est plus pour l'expérimentation, pour le plaisir de récolter et de fabriquer quelque chose ensemble qu'on le fait plutôt que pour la quantité parce que c'est vraiment peu. Mais c'est aussi le plaisir que tu as dans l'agriculture urbaine de faire des partenariats avec plein de jeunes entreprises ou d'autres associations. Et en fait, on apprend constamment de ce que font les autres. Donc c'est hyper agréable. On crée des liens comme ça et en fait, tu te rends compte que c'est un monde qui est vraiment minuscule, quoi.
Et tout à l'heure, tu m'as montré aussi un espace qui s'appelle la cantine, que j'ai beaucoup aimé. Tu peux nous en reparler ?
Alors, la cantine, c'est un espace de culture où on fait essentiellement pousser des plantes potagères qu'on récolte pour nous nourrir, du coup, et nourrir les bénévoles qui viennent nous prêter main forte tous les jeudis. Du coup, c'est un moment qu'on passe ensemble à choisir ce qui est mûr, pas mûr, et ensuite à cuisiner pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un moment convivial.
Qu'est-ce que tu as pu manger déjà comme plat basé à partir de ce qu'il y a dans la cantine ?
Ce midi, on a mangé une superbe salade qui venait de la cantine. On a mangé beaucoup de betteraves. Les betteraves prennent très bien à la prairie. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre ? On a mangé des carottes.
J'ai vu évidemment pas mal de plants de sauge. Dans cet espace.
Oui, il y en a partout. Il y en a vraiment partout, de la sauge, ouais. Elle se plaît très bien ici. Pourtant, au départ, c'est un peu dur à prendre. Une fois que ça a pris, en fait, ça fait des buissons magnifiques. Du coup, c'est l'emblème de l'association. Et puis, c'est une culture qui se plaît bien à la prairie du canal.
Et puis, avec toutes les plantes aromatiques que vous avez, ce qui est bien, c'est qu'en un rien de temps, tu peux préparer des salades, ajouter pas mal de goût très rapidement à des choses simples.
Oui, c'est aussi ça le principe, en fait. C'est un des principes pour moi de l'agriculture urbaine, c'est de reconnecter les gens à leur alimentation, de la mettre au plus près de chez eux. Donc, c'est vrai que pour des gens qui cuisinent et qui achètent tout déjà fait, là, pouvoir récolter ta menthe fraîche juste pour la mettre dans ta carafe d'eau et faire une eau infusée, c'est un vrai plaisir. Nous, voilà, on a mangé des pâtes à la sauce de la sauge ce midi. Mmh. Et voilà, c'est vraiment se reconnecter à notre alimentation en la produisant, en la récoltant et en la cuisinant, quoi.
Après l'enregistrement, Sophie, qui a grandi à Nice, m'a raconté qu'elle s'est installée à Paris il y a 5 ans et qu'avant d'arriver à la sauge, elle en avait marre de la grisaille et du peu d'espace vert de la capitale. Mais la prairie du canal a remis de la joie dans sa vie et aujourd'hui, continuer à vivre à Paris ne lui semble plus si absurde, même si elle se voit un jour quitter la ville pour être plus proche de la nature. Je crois que c'est vraiment cela que l'agriculture urbaine permet. Offrir une respiration verdoyante à des gens qui se sentent parfois trop à l'étroit en ville. Offrir un moment de ralenti, un espace où retrouver cette sensation légère d'enthousiasme et de fascination pour le vivant. C'est ce qui nous est d'ailleurs arrivé avec Sophie lorsqu'on est allé voir les fleurs d'artichaut d'un violet éclatant. Des fermes urbaines, il y en a à Paris, mais il y a aussi l'Agronaute à Nantes et Terre-Terre à Aubervilliers. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux de Bouffon. Merci à Sophie Boisselier et à Anaïs Kairouas de nous avoir donné de leur temps pour parler de l'art de faire pousser des choses qui se mangent. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Marine Rowe, programmée par Clara Maté, mixée par Thomas Decourt et coordonnée par Laura Cuissard. À mercredi prochain pour le dernier épisode de la saison.